7 milliards de voisins.
On est ensemble avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins à l'heure d'été, suite de notre série Vivre en ville. Après Nairobi, la ville sans espace public, changement radical, on entre dans un pays où la vie privée n'a que peu d'importance au regard de la nation. Aujourd'hui, vivre dans une ville récompense, Pyongyang, en Corée du Nord, raconté par Patrick Morus, professeur émérite de langue et de littérature coréenne à l'INALCO. Bonjour Patrick Morus.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur d'un documentaire récent qui a été diffusé sur la chaîne Arte, Pyongyang s'amuse. Patrick Morus, vous séjournez plusieurs fois par an à Pyongyang depuis des années. Vous parlez bien sûr coréen. Pourquoi donc une ville récompense ?
Parce que Pyongyang s'amuse, c'est aussi une ville récompense. Il s'agissait de montrer deux choses que je vous dire en termes très très simples. D'abord que Pyongyang n'est pas exactement la ville vitrine qu'on décrit trop souvent de l'extérieur, c'est-à-dire on voudrait montrer ce qu'on a de mieux et on cacherait ce qui n'est pas bien à l'extérieur. Pyongyang, c'est beaucoup mieux que le reste de la Corée, mais je pense que Paris, c'est un petit peu mieux que Hénin. Je ne veux pas te donner de nom. La deuxième chose, c'est que le système coréen est un système, nord-coréen est un système extrêmement sélectif. C'est pas une pyramide, c'est un système sélectif avec un fond de tunnel qui est que si vous réussissez, si vous entrez dans le moule, si vous faites ce que la ligne actuelle vous demande d'être, c'est-à-dire un bon scientifique, un bon technicien, un bon paysan, un bon artiste, vous serez récompensé in fine par le droit d'habiter à Pyongyang, et au Pyongyang tout est plus beau, plus grand, plus neuf, plus luxueux, mieux achalandé, etc.
Et vous avez déplié d'ailleurs dans le studio le plan de la ville. Combien d'habitants à Pyongyang ?
Le chiffre officiel, mais il n'y a pas de statistique en Corée du Nord crédible, c'est 2 millions et demi. Je pense qu'il faut en rajouter 1 million.
Patrick Morus, donc vous avez publié, on a diffusé ce documentaire sur la chaîne Arte, Pyongyang s'amuse. Vous êtes d'ailleurs venu nous en parler il y a quelques mois. Vous signez aussi le programme musical de l'émission. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment rap, salsa ou rumba, mais en tout cas exotique, assurément. Voilà, nous y sommes dans la ville récompense en Corée du Nord, Pyongyang, qui est aussi la capitale de la Corée du Nord. Avec vous, Patrick Morus, on vient d'entendre Morambang Band. Je vous vois sourire, pourquoi donc ?
Parce que ça m'a ramène là-bas. Et puis parce que paradoxalement, je n'entends pas ça différemment de ce qu'entendent de vos auditeurs en ce moment, qui j'imagine ne comprennent pas les paroles, mais... Les paroles en Corée du Nord sont tellement simples, orientées, répétitives et politiques que plus grand monde ne les écoute. Et donc cette surdité aux lyrics est assez universel, y compris pour les Nord-Coréens.
Ça veut dire qu'il n'existe pas de chansons non politiques en Corée du Nord ?
Ah, il y a toujours, si, il y a des traditions qui existent, il y a des traditions paysannes, il y a des chansons anciennes, on peut chanter au clair de la lune, bon, l'équivalent.
Il y a des chansons d'amour, par exemple ?
Alors, dans ce que vous entendez dans les programmes officiels, c'est-à-dire télévision, radio, mais surtout les karaokés et les télévisions qui sont dans tous les restaurants partout, vous entendez ce groupe qui s'appelle Moranbong. Moranbong, c'est le nom d'une fleur, c'est la pivoine, je crois, mais je ne vais pas dire de bêtises. C'est le nom de la grande colline qui se trouve en plein centre de Pyongyang. C'est là où on va pique-niquer le week-end, on va faire la java, on danse, on chante, on picole. C'est extrêmement marrant, c'est extrêmement intéressant. C'est là aussi où tous les textes qui représentent la Corée du Nord comme un pays dangereux et tout, imaginent que le régime a creusé des passe en cachant ses bombes atomiques dans les poches de tous les agents secrets. Bref. Et donc, ce groupe Moranbong, c'est aujourd'hui le grand groupe. C'est les Beatles d'aujourd'hui.
On continue d'écouter très régulièrement.
Non seulement on les écoute, non seulement on les a partout où vous passez.
Et sans faire attention aux paroles, donc.
Dans le bus, dans le métro, mais on les connaît tous par cœur. Mais j'ai entendu parler il y a quelques mois d'une quasi-émeute qui a eu lieu sur la côte est, donc à Perpète-les-Oies par rapport à Pyongyang, où elle venait jouer. Il y a des hommes qui jouent derrière, mais ce sont essentiellement des femmes qui jouent et qui chantent. Était annoncée et il y avait tellement plus de public que de places disponibles qu'ils ont fini par tout casser et qu'il a fallu que les autorités leur promettent que ce groupe resterait 3 jours pour répondre à la question au lieu de taper dessus comme on aurait fait il y a 10 ans.
Pyongyang, une ville récompense, une ville comme les autres, ça c'est moi qui rajoute le point d'interrogation. Il faut quand même faire une petite parenthèse avant qu'on continue de parler de cette ville, de voir comment elle est organisée, les quartiers, les logements et pourquoi, à quel point elle est une ville récompense. Mais en juin dernier, Patrick Morus, un étudiant doctorant universitaire australien, Alex Higley, séjournait à Pyongyang depuis un moment. Il tenait un blog d'ailleurs sur la vie quotidienne, un peu comme ce que vous nous racontez, absolument, avec une vision très positive du pays, qu'il qualifiait de pays le plus sûr au monde. Il donnait des bonnes adresses de resto à Pyongyang. Il a été arrêté, il a disparu pendant une semaine et puis ensuite relâché. Ça a surpris les étrangers habitués de la ville, des gens comme vous ?
Oui et non. Alors je précise tout de suite que je ne sais pas quels sont les motifs réels, à part espionnage. Bon, ça, c'est espionnage, ça veut dire, c'est aussi clair qu'être mouillé quand il pleut. Je veux dire, c'est pas, potentiellement, tout étranger étant un espion, il suffit d'accuser. C'est comme quand on veut arrêter un ressortissant nord-coréen, on dit qu'il a écouté la radio sud-coréenne. Comme effectivement, il a écouté la radio sud-coréenne, on peut l'accuser n'importe quand. Alors, ce qui est très très étonnant cette histoire, mais encore une fois, je n'ai pas le fond de l'affaire, c'est qu'il était très 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 bien vu à Pyongyang, qu'il avait accès à Internet international, et qu'il diffusait son blog de Pyongyang. Est-ce que, comme on l'a dit, certains cercles du régime trouvaient qu'on élargissait trop le périmètre du jardin? Est-ce que l'évolution du régime déplaisait à certains conservateurs et tout? Pourquoi pas? Mais comme on le dit à chaque fois, les explications qui valent pour tout finissent par ne valoir pour rien.
Quoi. Bon, en tout cas,
il a été libéré.
C'est probablement pas parce qu'il conseillait les mauvais restaurants.
Non, puisque je suis en train de préparer un guide de Pyongyang qui commence par les restaurants.
Eh ben,
donc j'espère que je ne vais pas me retrouver en prison pour les mêmes raisons.
Patrick Morus, en tout cas, pour l'instant, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins dans cette série d'été. Alors, Pyongyang, une ville à récompense. C'est une ville qui est traversée par un très grand fleuve. Hein, voilà. Comment on prononce d'ailleurs
Taedong.
Taedong.
Le fleuve Taedong.
Quand on sort de la ville, est-ce que c'est déjà la campagne ou bien il y a des banlieues ?
C'est la campagne à 1 mètre de distance. La ville tombe à pic par la campagne. Vous finissez, il y a un grand immeuble et derrière sont les champs. Il n'y a absolument rien. Et de toute façon, ce n'est pas la même administration. Et la ville ne peut plus s'élargir. C'est un des projets de l'actuel maire de Pyongyang qui n'a pas l'air d'être un imbécile, qui consiste à dire il faudrait peut-être qu'on rénove nos vieux quartiers de Pyongyang pour cesser de manger des terres arables à l'extérieur.
Et vous avez vu évoluer cette ville ces 10 dernières années de manière très rapide ?
C'est ahurissant. Je commence par me mettre un bémol à moi-même pour réfréner mon enthousiasme. J'ai lu un bouquin que tout le monde peut trouver qui s'appelle écrit par un nommé Hulbert Hulbert en 1903 et qui commençait par « Quiconque n'est pas revenu à Séoul depuis 3 ans serait sidéré par les changements que l'on constate. » Et quiconque va en Extrême-Orient, mais Jakarta, Tokyo, etc., ne peut pas s'empêcher de dire la même chose. C'est valable aussi pour Pyongyang.
Si ce n'est que pour Pyongyang, depuis 1903, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de destruction.
Alors, il s'est passé beaucoup de choses. 1953, il restait, paraît-il, une maison debout, qui paradoxalement appartenait à une japonaise.
La ville a été détruite par les Américains pendant la guerre de Corée. De bombes sur la Corée que sur le Japon.
Et voilà, c'est plus et beaucoup plus que sur les grandes villes allemandes, Dresde en particulier. C'est pas du tout pour faire un concours d'horreur, hein. C'est une horreur plus une autre.
Donc la ville est repartie de zéro.
De zéro, elle a été reconstruite au moment où le régime nord-coréen a été un régime. Je parle purement techniquement, aucune notion de valeur, hein, mais a été un régime extraordinairement efficace. De 55 à 75, le régime a construit, et 75, on le sait, c'est la dernière année à laquelle la Corée du Nord était plus riche et plus développée que la Corée du Sud, dixit la Corée du Sud. Puis après, il y a eu 20 ans d'atrophie qui ont abouti entre 94 et 2000 à cette épouvantable famine. Pour des tas de raisons qu'on pourra en parler.
L'électricité manquait même à Pyongyang et on ne construit plus à ce moment-là.
Elle a manqué quand même, que je peux vous dire.
Vous avez connu cette époque-là ou...
J'ai connu, oui, mais je ne vais pas entrer trop dans le détail personnel, mais j'ai connu les périodes où Pyongyang était noir. Il n'y avait
la
rien
nuit,
du tout.
Pas de lumière.
Et où
les étudiants étudiaient au réverbère, le peu de réverbère.
Quand on trouvait un réverbère, donc on allait à la gare en général, parce qu'il y avait la lumière de l'horloge de la gare. Et il m'est arrivé de faire des lectures à voix haute pour mes étudiants devant la gare. Oui.
Aujourd'hui, le modèle de ville, vous le dites, ça construit à tout va. La ville est en train de se densifier, c'est-à-dire qu'on rase des immeubles qui étaient trop bas pour construire des gratte-ciels.
Absolument.
Le modèle de ville pour le régime nord-coréen aujourd'hui, c'est quoi? C'est la ville chinoise, c'est quoi?
Non, je crois que la ville chinoise est un exemple, mais à ne pas suivre. C'est les deux, hein. C'est-à-dire que les Chinois sont passés par ça avant nous, à partir d'un régime qui ressemble un petit peu, mais ils ont probablement fait toutes les erreurs possibles, et aujourd'hui le régime chinois tient très 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 fortement sur des promesses économiques qu'il n'arrive plus à tenir, et sur un régime policier dont la Corée du Nord sait très bien qu'il ne suffit pas à lui-même. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un régime policier, ça veut dire qu'ils savent que le régime policier n'est pas un ciment suffisant pour faire venir une société.
Sous-entendu, quelles erreurs ne veulent-ils pas reproduire des villes chinoises, alors, en construisant aussi rapidement?
D'abord, la dichotomie, c'est-à-dire la Chine, il y a une administration, parti, État qui tient tout, et à côté, il y a une population qui a... Attendez, tu fais tout ce que tu veux économiquement, mais tu ne te mêles pas de nos affaires. En Corée du Nord, il ne peut pas être question que ça. En Corée du Nord, le régime est persuadé, tant ou à raison, qu'il peut contrôler chacun des éléments d'évolution du régime. Et comme ça a été vrai, il est très difficile de les convaincre que dans une société qui deviendra complexe, multiple, ou une e-société, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'ils font. Et il y a, parce que j'ai le plan sous les yeux, il y a un plan d'occupation des sols à Pyongyang qui est extrêmement étonnant, parce que on a les trois grandes périodes, donc le développement énorme jusqu'en 75, avec ces immenses avenues où il ne fait pas bon de se balader l'hiver avec le vent froid par moins 30, je vous garantis que sur le vélo, c'est pas terrible. Ensuite, il y a et qui date de l'époque, des espaces verts absolument inouïs. C'est une ville extrêmement étendue pour très très peu d'habitants, mais extrêmement agréable à vivre. Sauf qu'à partir de 75, fermeture du régime, et les gens qui habitaient là-dedans se sont retrouvés avec des magasins vides, des bus qui passaient pas, et pas le droit de faire du vélo. Et donc, alors là, vous avez la ville la ville écolo dans laquelle vous êtes obligé de marcher par moins 30. Et ça, personne n'apprécie ce genre de choses.
Aujourd'hui, la ville a la place de se densifier pour ne pas s'étaler et pour ne pas empiéter sur des terres arables qui sont cultivées, dont on a besoin à l'extérieur de la ville.
C'est une des grandes raisons, même si les terres arables autour de Pyongyang sont gérées par Pyongyang, de façon à ce que, en légumes et en viande, la ville soit achalandée, sans tenir compte des aléas de ce qui pourrait se passer dans telle ou telle province.
Alors revenons à la vie quotidienne des habitants à Pyongyang, vous le disiez, une ville récompense. Est-ce qu'on peut choisir son lieu de résidence, son quartier ?
Non, franchement non. Bah, un peu oui, mais franchement non.
Comment sont attribués les logements ? Il n'y a pas de propriété privée. Alors comment on sait où est-ce qu'on va habiter pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur ?
Vous avez la propriété individuelle d'une propriété collective. C'est-à-dire que la Constitution vous donne le droit au logement, aux études, à la médecine et à l'enterrement. Voilà, c'est par la Constitution.
Donc pour le logement, on a un permis de résidence ?
Ah, mais d'abord, il y a un permis pour être à un endroit spécifique, mais une fois que vous avez un logement, de toute façon, il est à vous. C'est-à-dire que quand vous quittez un logement pour en avoir un autre qui est mieux, ben il y a un certain nombre d'arrangements pour pouvoir refiler ce logement à quelqu'un d'autre et faire un bénéfice au passage. Ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Mais votre unité de travail doit vous fournir un lieu de logement. Sinon, c'est l'État qui doit le faire.
Ça veut dire qu'on paye un loyer ou pas ?
Un loyer, non. Des charges. Des clopinettes.
Aujourd'hui, c'est le motif principal qui fait qu'on a... Il faut tout faire pour habiter à Pyongyang.
Absolument.
Bon, si le logement.
La triade habituelle, c'est-à-dire exactement qu'en Corée du Sud, le logement, l'éducation, la médecine. Et après, les magasins sont pleins, mais on ne s'en rend plus compte quand les magasins sont pleins. Mais être sûr d'avoir un très très bel appartement, un bon hôpital et...
Un très bel appartement, pas pour tout le monde.
C'est une question de hiérarchie, c'est-à-dire que c'est de plus en plus beau, mais pas pour la nomenclatura. Enfin, il est évident que la nomenclatura bénéficie de très belles choses, mais qui sont invisibles par qui que ce soit. Donc on ne peut pas... Je le pense de façon darwinienne, mais je ne les ai jamais vus. En revanche, par exemple, mes copains à l'université, on a eu, il y a 5 ans, on a eu une grande campagne où on a tous été mis devant l'intranet, c'est-à-dire tout le monde pouvait s'inscrire pour postuler dans l'université pour avoir un bel appartement. Il y avait deux grandes tours qui étaient construites en face, 300 appartements, 7 pièces, quel que soit le nombre de personnes dans la famille. Et ce sont des appartements absolument fabuleux. Et ils ont été attribués sur l'intranet, visiblement, les noms apparaissaient, et les gens de l'université pouvaient réagir. Je peux vous dire qu'il y a eu du débat. Mais ça a été assez fair-play, et les profs qui l'ont eu, bon, à part 2-3 crouchemires qui sucraient les fraises, bon, on leur a donné ça pour leur fin de vie, c'était assez normal. Les autres étaient vraiment des gens qui bossaient, qui faisaient leur boulot et tout. Alors, est-ce qu'un prof d'université doit avoir un logement 5 fois plus grand que n'importe qui d'autre en ville ? Je veux bien qu'on en débatte. Je veux bien aussi qu'on débatte pourquoi un prof d'université à Paris a un appartement 5 fois plus petit que celui des autres.
Comment on circule à Pyongyang, les transports en commun, pas d'embouteillage, vous le dites
alors,
souvent.
Alors techniquement, et pour l'avoir chronométré de mes fenêtres, un à pied.
Bien que la ville soit très étendue.
Terriblement étendue. Non, c'est 1h30, 2h.
Hein. Pourquoi à pied ?
Parce que sinon, il faut prendre le bus. Et dans ce cas-là, on attend très 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 longtemps qu'il ait la place dans le bus. Le vélo, mais le vélo, d'abord il faut en avoir un, il y en a de plus en plus. Mais le vélo en hiver, c'est terrifiant. Et si on a une chance fabuleuse, on est sur une des deux lignes de métro. Alors là c'est fantastique parce que c'est du métro soviétique, énorme, chauffé, c'est fantastique.
Mais deux lignes de métro pour une ville de au moins 2 millions voilà. Et demi d'habitants, ouais. Voire probablement...
Non, c'est pas terrible. Moi, j'ai toujours habité dans des coins où il n'y avait pas... où il fallait... Si je voulais, il fallait prendre bus, puis métro.
Et la voiture ?
Très très peu de gens, même s'il y a beaucoup de voitures d'entreprise aujourd'hui.
Pourquoi très peu de gens ont une voiture ?
Personne ne peut acheter ça.
Trop cher ?
C'est pas trop cher, c'est hors de pensée. Je veux dire, personne n'a officiellement, je sais pas combien ça coûte une voiture, 15 000 euros, je sais pas. Parce que la voiture sera chinoise ou autre chose, ça doit coûter 10 000 ou 15 000 euros. C'est le budget d'une ville. en financièrement, en devise, c'est absolument impensable. Moi, il y a une année où, quand j'étais en fac, ils avaient décidé que je devais absolument avoir une voiture pour aller de chez moi à la fac, dont je n'avais absolument pas besoin. J'avais un arrêt de métro juste devant chez moi. Mais simplement, tout le monde dans la fac était très content que j'ai une voiture parce que tout le monde s'en servait.
Allez, on est dans la ville récompense à Pyongyang, en Corée du Nord, avec vous, Patrick Morus. Vous le disiez, c'est finalement toujours les mêmes motifs qui font rêver à la capitale, y compris en Corée du Nord. Peut-être qu'il y a évidemment d'autres ressorts plus politiques sur place, mais l'accès au logement, à l'éducation, à la santé, on en discute avec vous. Bien dans la ville récompense en Corée du Nord avec vous, Patrick Morus. Vous nous le disiez, pour avoir le droit d'habiter à Pyongyang, la capitale, il faut bien sûr un permis et c'est la fenêtre ouverte à un meilleur logement, un meilleur accès à la santé, à l'éducation. Il y a plus d'écoles, plus d'universités forcément que dans le reste du pays, parce que le reste du pays c'est 25 millions d'habitants et très peu de villes finalement.
Il y a plus de tout parce que il y a moins de tout de l'autre côté. Excusez-moi de cette banalité atroce, mais moins de tout, ça veut dire que, comme vous le dites exactement, il y a très très peu de villes au sens que nous donnerions occidentalement, comme ça, généralement. Il y a quelques villes moyennes, comme Ramung, Wonsan, etc. Il y en a assez peu, et c'est surtout un pays de villages et de fermes coopératives.
Vous nous le disiez, la Corée du Nord fonctionne avec un système de sélection pour avoir le droit d'habiter dans la capitale. Est-ce qu'il y a un système de repérage des meilleurs étudiants en province pour les faire venir dans la capitale, par exemple ?
Terrifiant, dans les deux sens du mot terrifiant. Ça me terrorise et en même temps, c'est extraordinairement efficace. Il y a des grilles de lecture des classes à Pétaouchnok, les plus reculées, qui permettent de repérer les gosses les plus petits qui ont un truc pour les maths, les autres qui arrivent à jouer du piano avant les autres, les troisièmes ont un goût pour la botanique, et on les repère, on les ramasse, on les fait monter à l'échelon supérieur et encore. J'ai vu, comme je vous l'ai raconté, des examens en école maternelle. Des concours en école maternelle.
Ça mène forcément à la capitale, ça, ensuite ?
C'est bien parti. Maintenant, il y a des tas de gens qui sont, comme j'imagine, des gens du Languedoc ou de Rhône-Alpes, pour qui le but de leur vie n'est pas de venir à Paris, et qui sont très 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 bien dans leur région. Et on peut y vivre très très bien.
Alors, vous connaissez bien les milieux universitaires, puisque vous
mieux
enseignez,
que les autres,
vous travaillez avec les étudiants sur place à Pyongyang. Il y a plusieurs universités,
oui.
5 ou 6, me semble-t-il.
C'est-à-dire que ce matin, j'étais dans mes notes, et il y a des universités publiques et des universités dont la présence n'est pas mentionnée sur les cartes.
C'est-à-dire ?
Des universités dans lesquelles le régime forme des profils particuliers pour l'État, pour le parti, pour l'armée, pour différents domaines sur lesquels ils n'aiment pas que la lumière soit faite.
Quel est le rang, la place sociale d'un prof d'université à Pyongyang ?
Alors,
vous parliez des conditions d'attribution des logements.
Tout en haut, et même en Corée du Sud encore, même si évidemment les hyper grands patrons les regardent avec un air un peu ricanant, mais le professeur, le Kyosu Nim, c'est quelqu'un qu'on appelle, alors quand on fait des fausses traductions de romans d'espionnage au Japon, on dit l'honorable machin, donc l'honorable professeur, et en Corée du Nord il s'appelle l'honorable maître professeur, et il est tout. Il est au-dessus de tout. Et si en plus il a, comme certaines personnes que je connais, par exemple une personne ici présente, a dépassé les 60 ans, donc il a fini son tour de vie, maintenant il est dans un supplément de vie, alors là c'est inouï. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever un petit doigt, on le serre, on l'approche, on lui porte sa chaise, on lui porte son sac, on peut plus rien faire. Et c'est encore très 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 largement comme ça en Corée du Sud.
Et donc même à la retraite, il est indéboulonnable de la ville récompense, il va rester à Pyongyang ?
S'il ne fait pas une grosse bêtise, ou si un de ses enfants, parce qu'on reste encore très collectivement responsable, malgré une intervention officielle, publique de Kim Jong-un, donc le dirigeant, il y a 3 ans, qui a rappelé, et tout le monde l'a entendu, que la Constitution interdisait 2 choses. 1, de condamner des gens sans procès, et 2, de condamner des gens liés à un coupable. S'il l'a dit, c'est que peut-être il y avait besoin de le dire. Mais ça, bon, c'est une autre question, c'est pas Pyongyang qui s'amuse. Et en revanche, il l'a dit très fort. D'après ce que je sais, il vaut mieux quand même ne pas être trop lié à quelqu'un qui a eu des problèmes avec le régime.
Il vaut mieux avoir donc des enfants qui filent droit également tout au long de leur carrière.
Et inversement, que les enfants aient des parents qui... Voilà.
Pendant longtemps, le concept de temps libre n'existait pas en Corée du Nord. Vous avez enquêté sur cette, on va dire, peut-être nouvelle société de culture, de loisirs. Est-ce qu'on peut parler comme ça ?
J'ai parlé de société de loisirs, j'ai parlé d'une société consumériste. Il y a 19 ans, jour pour jour, on crevait de faim. On mourait de faim. On mourait de faim par dizaines de milliers. Et une génération après, on peut parler de consumérisme, et ce n'est pas une insulte. Et pas... Pendant des années et des années, j'ai moi-même hésité, je n'ai pas pu parler en rentrant de Corée du Nord de bouffe, de cuisine ou de restaurant, parce que ça me semblait odieux, indigne, parce que j'ai des copains qui ont disparu, j'ai des enfants qui ont disparu. Enfin, pas les miens, mais des copains d'enfants. Donc, c'était absolument impossible à dire. C'est eux ont fini par arriver à le dire. Tout comme la Corée du Sud a réussi à surmonter le naufrage du Séoul et les enfants qui se sont noyés, la Corée du Nord commence, alors c'est encore très très prégnant, à surmonter ces années de famine qu'on appelle la dure marche ou la longue marche, hein, c'est le même mot, aussi en particulier parce que dans les deux cas, maintenant on en parle, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans.
Ça veut dire que concrètement, Pyongyang est une ville qui propose des loisirs, on peut aller au cinéma par exemple à Pyongyang ?
Alors, c'est sans doute ce qu'on fait le moins parce que le cinéma est un peu nul, faut dire ce qui est, et Kim Jong-un a largement secoué les grelots des gens du cinéma pour qu'ils améliorent un petit peu, mais ça n'a pas fonctionné. On va au cinéma, mais on va au cinéma en achetant des billets collectifs. C'est-à-dire l'unité de travail achète la salle à 14h pour tout le monde. Donc il y a plein de choses collectives. Les spectacles vivants, qui sont très très demandés, beaucoup plus que le cinéma, attirent énormément de monde, mais là aussi il faut une réservation. En revanche, les activités, sport, pique-nique, natation, bowling, balade, karaoké, etc. Ça, vous le faites tout seul. J'ai ma carte sous les yeux et je vois la route pour aller de chez moi à l'université. Et pour aller la route de chez moi à l'université, sauf en plein hiver, je vous le concède, je la faisais le plus souvent à pied, ça me prenait 2 heures, mais j'ai pas honte parce que c'est totalement volontaire. Et je faisais en particulier, je suivais le deuxième fleuve de Pyongyang qui s'appelle Potonggang. Et d'un bout à l'autre de ce fleuve, dans la ville, il y a des milliers et des milliers et des milliers de retraités qui soit jouent aux échecs chinois, soit joue au ping-pong, enfin moins bien parce que c'est un certain âge, soit pêche. Et, mais il y a plein de monde. Et
cette notion de temps libre, elle est, c'est quelque chose qui est quand même très nouveau, vous le disiez. Parce qu'avant, il y avait quoi à la place, finalement? Il y avait les séances d'éducation politique.
Il y avait 10 heures de boulot, plus le temps pour aller au boulot, où on rentrait totalement crevé et on s'étalait, pour regarder une télévision qui endormait encore plus vite. Le samedi matin, il y avait les leçons politiques. Le samedi après-midi, il y avait le samedi socialiste où on rebossait collectivement. Et donc le dimanche, on s'étalait complètement. Les seules activités de mes copains, honnêtement, bon, l'épouse faisant la cuisine, les seules activités de mes copains, c'était boire une bière devant la télé.
Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, vous avez filmé sur plusieurs années des parcs d'attractions, des piscines, où là aussi des habitants de la province, de la campagne, peuvent là aussi être récompensés pour l'espace d'une journée.
Ah ben, complètement.
Une journée récompense à Pyongyang, à la piscine, au parc d'attractions.
Et ils adorent, et ils se marrent, et c'est dommage que ce soit pas dans le film, mais ce sera dans le prochain. La tête des paysans qui sont à Pyongyang pour une journée, et qui prennent ces espèces d'immenses toboggans, vous savez, de bord de mer, comme ça, et qui se ratent, parce qu'en bas, ils se tapent les uns dans les autres, ils se flanquent des coups de pied terribles, parce que l'autre n'a pas compris qu'il fallait quitter le toboggan. Ça, c'est absolument inouï. Puis, quand on sait qu'il y a 20 ans, on crevait de faim, et qu'on les voit faire ça, franchement, c'est un truc à pleurer. Mais, en même temps, vous avez passé de la musique tout à l'heure, vous parlez des grands toboggans maintenant, c'est totalement vrai, ça existe, ça structure la vie aujourd'hui, mais c'est tout aussi politique que le reste. C'est peut-être ça l'intelligence du nouveau régime, c'est de faire en sorte que ce soit un acquis du nouveau régime, enfin, que les gens pensent que c'est grâce à lui qu'on peut avoir ça aujourd'hui.
Alors, votre programme musical que vous nous avez apporté, il est quand même un brin désuet. Hein. Il y a quand même des auditeurs qui vont se dire, mais c'est pas possible.
Il y a forcément,
même avec les mêmes textes politiques, il peut y avoir une actualisation de l'instrumentalisation sur le plan musical, non?
Oui, absolument. D'autant que je ne suis pas le plus grand spécialiste de la chansonnette.
Vous êtes fait conseiller, hein, vous fais confiance.
Oui, absolument. Ça s'appelle Pumpa, et l'autre mot pour le dire, c'est Trot. C'est l'ancien foxtrot qu'on sent un petit peu à ce rythme, un petit peu pachydermique. Il est vrai qu'aujourd'hui, les groupes qu'on a entendus dans leurs morceaux les plus nouveaux, maintenant, c'est violon et guitare électrique. C'est rock hard. Pas très londonien, mais quand même beaucoup, beaucoup plus fort. Et quand ils sont apparus, mais du jour au lendemain, je peux vous fixer la date, le jour et l'heure où c'est arrivé, parce que j'étais dans un bistrot où d'un seul coup, personne n'écoutait la télévision. Il y a eu un silence de mort. Tous les regards étaient sur la télé. Je me suis dit, il doit y avoir une annonce, un mort, quelque chose. Non, ils regardaient la télévision parce que du jour au lendemain, on est passé des défilés militaires que vous avez dû voir à la télévision à un groupe de jeunes femmes diplômés en 90, 60, 90, jouant de la guitare électrique avec des mini-jupes presque au niveau des épaules. Et c'est du jour au lendemain, ça a été stupéfiant. C'est le régime qui disait, ça y est, maintenant on va manger le dessert. Et voilà la preuve, je vous la mets à la télé, sur la télévision d'État, où on venait de voir les informations complètement guindées avec une voix totalement insupportable, et 5 secondes après l'hymne national, pan, vous avez une boîte de nuit parisienne.
Alors vous nous le disiez, on chante beaucoup à Pyongyang, le week-end, énormément. Le dimanche, on se retrouve dans des restaurants aussi, qui sont d'ailleurs des restaurants maintenant semi-privés ou pas?
Oui, totalement. Alors, à gestion privée, toujours pareil, tout appartient à l'État. Et ce sont des gestions privées, soit des entreprises, soit l'État, qui donne directement la gestion à une entreprise. C'est assez difficile d'explorer. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font individuellement. Donc ça ne pose pas de problème métaphysique à l'État. En revanche, j'ai vu des grands restaurants, j'ai dîné dans des grands restaurants, j'ai des copains dans des grands restaurants où il y a 30, 40, 50 employés. Et ça, c'est contraire à la Constitution. Parce que ça relève techniquement de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ou de la demoiselle par le patron.
Et on chante dans ces restaurants à la fin du repas.
Partout, tout le temps. C'est pour ça que c'était très difficile de parler de la Corée du Nord. Je sais ce qu'on pense du régime nord-coréen quand on croit avoir le droit d'avoir une opinion. Mais je sais ce que je pense du régime nord-coréen, de ces choses qui ne vont pas, des choses qui doivent changer. Il se trouve qu'en même temps, comme dirait un président récent, effectivement, tout le monde chante tout le temps, partout. Mais c'est ne pas chanter le problème.
Les étudiants à Pyongyang, qui ont la chance d'étudier à Pyongyang, sont les habitants de Pyongyang demain, vraisemblablement.
Oui, hein. Oui, oui.
Quelles exigences, puisque eux, ils n'ont pas connu les grandes famines, c'est normal d'avoir tout ce qu'il faut dans des magasins
totalement
à peu près
raison.
Correctement
exactement.
Achalandés, d'aller dans
exactement.
Des restaurants. Quelles exigences pointent dans cette
exactement.
Nouvelle
vous
génération
vous doigt sur les problèmes du régime dans 5 ans.
C'est-à-dire quoi des... on en a fait déjà des enfants rois, des enfants gâtés, ou pas tant que ça?
Alors, l'enfant coréen est roi. C'est un sale petit
on con, reste à Pyongyang, si vous me permettez. On est bien ça. D'accord.
Oui,
l'enfant
non, mais,
de Pyongyang.
Toutes les Corées, les trois Corées. Le gosse en dessous de 7 ans, c'est une tête à claque. Vous avez envie de lui botter les fesses dès que vous le voyez. C'est le petit chéri, surtout si c'est un garçon. En Corée du Nord, après la famine... ça a été encore plus chéri, c'est-à-dire qu'ils avaient survécu. En Corée du Sud, ils ont survécu à la limitation des naissances, il n'y a plus d'enfants. Donc quand il y en a un, c'est encore aussi merveilleux. Ils ont le droit à tout, on leur donne tout, on leur laisse tout faire. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans le système scolaire, qui est lui-même, qui est un système qu'on qualifierait nous de... Enfin, ça ferait peur aux militaires. Ça moufte pas. C'est pour un prof... Je le dis, j'ai honte, vous répéterez pas ce que je dis, hein. Mais c'est fantastique d'avoir un cours avec des Coréens, s'ils mouftent pas, ils répondent aux questions, ils préparent les devoirs, et ils portent le cartable.
C'est... Du professeur.
Ben, du prof, oui. Et entre eux, ils s'arrangent beaucoup. Alors, ils sont ultra sélectionnés, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont entrés dans la grande université numéro 1 qu'ils vont s'en sortir. Mmh. Oui, ils vont s'en sortir, mais... Toutes les universités sont là pour leur tailler des croupières, c'est pas du tout évident.
Leurs exigences demain, eux qui auront survécu à la demande d'efforts particulièrement intense et qui n'auront pas connu le passé de la Corée du Nord.
En une formule, tout métier qui implique des relations internationales et des contacts. Et mon meilleur étudiant, toute catégorie depuis des années et des années, et qui est devenu interprète privé du grand leader... sans jamais avoir été en France, a choisi, au lieu d'être devenir calife à la place du calife, a choisi d'être guide dans une agence de voyage.
Donc, il recherche le contact avec l'extérieur.
Oui, je vais rencontrer tellement de gens qu'après, je monterai une entreprise. Et ce « je vais finir par monter une entreprise parce que je connais des gens », c'est un truc que j'ai entendu en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne.
Et parce qu'ils savent que ça sera forcément possible à un moment donné.
Oui, mais ils savent que c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, avoir fait des bonnes études, ok, c'est bon. Mais c'est pas parce que t'es X bon que tu vas y arriver. C'est parce que tu vas rencontrer des gens qui te donneront des contacts, etc. Et tu sauras où trouver l'argent.
Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'une malédiction. Est-ce qu'on peut être renvoyé de Pyongyang, la ville récompense, Patrick Mahus?
Et comment? Et la menace existe. Alors, si je précise, bien entendu, qu'on peut aussi revenir. J'en connais.
Pour quel motif on peut être chassé de Pyongyang, renvoyé à la campagne, renvoyé dans une ville secondaire?
Si les explications officielles sont valables, elles le sont certainement quand on sait pourquoi. C'est-à-dire que vous avez un collègue ou un responsable qui d'un seul coup disparaît, vous savez pas où il va, vous n'avez aucune explication. Et là, ça peut être très 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 mauvais. En revanche, si on vous dit il a été en campagne, à la campagne, renvoyé à la campagne parce que il n'a pas développé le plan, parce que les produits qu'il a vendus sont de mauvaise qualité pour la population, parce que il devait fabriquer, son usine devait fabriquer des rails et que les rails ont explosé, que la locomotive a eu un accident. Bon, là, on est sanctionné. Mais on est sanctionné pour la raison que l'on donne et c'est amendable, c'est-à-dire qu'on peut retourner faire le plein d'honorabilité en campagne, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est la bonne expression, et être pardonné, en quelque sorte.
Pyongyang, vous le dites souvent, encourage à la loyauté, hein, et effectivement, c'est vrai qu'on est tenu par cette peur de faire une erreur et d'être renvoyé à la campagne. Un mot de conclusion, puisqu'on termine un peu en avance, on a un autre sujet à diffuser dans notre émission, Patrick Mahus. Qu'est-ce que vous aimez retrouver dans cette ville de Pyongyang, en quelques mots, quand vous y retournez, ou qu'est-ce qui vous manque quand vous n'y êtes pas, vraiment en quelques mots?
J'aime bien le matin, de très bonne heure, prendre mon vélo, traverser la ville et aller retrouver mes étudiants et savoir que je vais passer toute la journée avec eux et qu'on va s'apprendre des trucs toute la journée.
Merci à vous, Patrick Maurice, d'avoir raconté une partie de cette ville récompense Pyongyang. Dans quelques instants, on va donner la parole à deux Coréennes qui vivent en Grande-Bretagne. L'une est nord-coréenne, l'autre est sud-coréenne. Elles se sont rencontrées dans le pays où elles vivent à l'heure actuelle et Charlie Dupiau les a rencontrées. On les découvrira dans quelques instants. On se quitte avec Pochombo électronique ensemble. Femmes qui ont en commun d'avoir la cinquantaine et de vivre au Royaume-Uni. L'une s'appelle Jihoon Park, elle est nord-coréenne, elle a grandi à Cheongjin, j'espère que je prononce bien, une ville du nord du pays. L'autre est sud-coréenne, fille d'un père diplomate et elle préfère qu'on l'appelle Seilin, qui est un pseudo. Toutes les deux se sont rencontrées sur le tournage d'un documentaire il y a 5 ans. Elles ont eu envie de raconter leurs histoires dans un livre, Deux Coréennes, publié chez Bûcher Chastel. Charlie Dupiau les a rencontrées. Jihoon parle coréen et Seilin parle français parce qu'elle a passé une partie de son enfance dans des pays d'Afrique francophone.
Alors je m'appelle Jihoon Park, je suis née en 1968 en Corée du Nord. J'ai quitté mon pays une première fois en 1998 et une deuxième fois en 2004 après avoir été renvoyée de force dans le pays. Je suis arrivée en Angleterre en 2008. J'y vis encore aujourd'hui. Je suis une activiste des droits de l'homme, j'enseigne l'anglais à des enfants de réfugiés nord-coréens qui vivent aussi en Angleterre et je travaille comme reporter pour une radio qui s'appelle Radio Free Asia.
Alors, je m'appelle Céline, je suis également née dans les années 60 et ça fait à peu près 14 ans que je vis à Londres et je suis sud-coréenne.
Quand on s'est rencontrées toutes les deux, je ne me suis pas dit « Ah, c'est quelqu'un de mon pays, on vient du même endroit ». Non, ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était même pas ça du tout. Je me demandais plutôt « Qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» Et de mon côté, ce que je ressentais n'était pas tout à fait clair non plus. J'avais à la fois le sentiment qu'on avait une origine en commun, un lien, et qu'en même temps, il y avait entre nous quelque chose de très triste qui nous séparait.
Et vous, Céline, est-ce que vous aviez aussi cette impression-là, d'une séparation, d'une frontière entre vous deux ?
Alors moi, j'avais jamais rencontré de Nord-Coréenne avant, donc j'étais quand même un peu sur mes gardes, j'avais un peu peur, je me méfiais un petit peu du fait que j'avais affaire à une Nord-Coréenne. Vous savez, on m'a dit quand j'allais à l'école, donc en Corée du Sud, attention, la Corée du Nord, c'est l'ennemi, c'est... N'oublions pas qu'avant la colonisation japonaise, donc avant 1910, c'était un seul pays. On s'est retrouvés séparés pendant 70 ans pour des raisons qu'on connaît tous, mais au-delà de tout cela, donc, il y a un passé en commun, il y a un héritage en commun, il y a une culture commune, le confucianisme, on mange la même chose, on parle la même langue.
Donc vous décidez ensuite de faire un livre, toutes les deux, et de raconter vos deux histoires en parallèle. Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter, en fait, Jihoon ?
Aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui sont scolarisés en Angleterre où nous vivons. Et ils me demandent souvent, mais maman, pourquoi tu ne sais pas ça ? Normalement, on l'apprend à l'école. Comment ça se fait que tu aies aussi peu de connaissances sur le monde ? Alors je leur réponds, je leur dis que je ne suis pas un culte. Moi aussi, je suis allée à l'école. Mais j'y ai appris des choses complètement différentes. Avec ce livre, je veux leur raconter comment j'ai grandi en Corée du Nord. Ils pourront mieux me comprendre.
Dans le livre, Jihoon, vous racontez votre enfance et notamment ce qui se passe à l'école en Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passait pour vous à l'école ?
On se levait à 5h du matin et on arrivait tôt à l'école pour faire le ménage. On nettoyait tout, y compris les toilettes. Puis à 7h40, on avait une session de 20 minutes consacrée à la lecture. Ça n'était pas n'importe quelle lecture, on lisait la vie de Kim Il-sung. À 8h, on faisait notre gymnastique matinale. Enfin, on avait cours et on rentrait déjeuner à la maison. L'après-midi, soit on allait travailler au champ, dans des fermes où il manquait de main-d'œuvre, soit on avait encore des cours sur Kim Il-sung. On avait énormément de devoirs pour chaque matière. Le samedi, on devait aussi aller à l'école. Le dimanche, on se retrouvait en petits groupes pour préparer des travaux ensemble. On n'avait quasiment pas le temps de jouer, même le week-end.
Alors, vous, Céline, vous avez grandi en Corée du Sud, donc de l'autre côté de la frontière. En écoutant la Ji-Yoon, en écoutant son histoire, en écoutant son enfance, qu'est-ce qui a pu vous marquer? Qu'est-ce qui a pu vous surprendre?
Bon, au-delà du fait que j'entendais pour la première fois de la bouche d'une vraie personne les expériences de la vie de tous les jours en Corée du Nord, ce qui m'a choquée, c'était le manque d'émotion. Je me suis rendu compte que c'était des gens qui vivaient dans un monde où ils n'avaient pas le droit de sentir les choses. Ils n'avaient pas besoin, ils étouffaient les émotions.
Ji-Yoon, comment vous êtes affranchie de ce qu'on peut qualifier, et ce qui est qualifié d'ailleurs dans le livre, de lavage de cerveau en Corée du Nord? Comment vous avez pris conscience de ça en fait?
Quand j'étais en Corée du Nord, je ne savais pas qu'on me faisait un lavage de cerveau. Par contre, enfant et surtout adolescente, je me suis quand même posé des questions sur la validité et la vérité de ce qu'on nous disait. Mais ça s'arrêtait là, ça n'allait jamais plus loin et je ne me révoltais pas. Puis il y a eu un jour, bien plus tard, et c'est devenu vraiment évident pour moi qu'il se passait quelque chose de bizarre, de faux et d'injuste. C'était en 2004. Je vivais alors en Chine où j'avais réussi à fuir 6 ans plus tôt. On m'a dénoncé et j'ai été envoyée dans un camp de prisonniers en Corée du Nord. Nous n'avons aucune liberté de mouvement. Donc, quand un Nord-Coréen quitte son pays, il est automatiquement considéré comme un traître et fait prisonnier dans un camp, si jamais on le dénonce, comme cela a été mon cas. C'est à ce moment-là, dans le camp, que j'ai compris que la Corée du Nord n'était pas le pays qu'on m'avait enseigné quand j'étais enfant. J'ai vu dans ces camps des choses qui me rappelaient ce qu'on nous avait raconté à l'école sur la période de colonisation japonaise en Corée. Toutes ces atrocités dont on m'avait parlé, je les retrouvais dans ce camp de prisonniers en Corée du Nord. Mais contre nous, les Nord-Coréens, nous n'étions même pas des humains à leurs yeux. J'ai été traitée comme un animal là-bas. Je ne peux même pas vous décrire tout ça tellement c'était une souffrance à l'époque. J'ai passé 6 mois dans ce camp, puis j'ai été transférée ailleurs, dans un autre centre, d'où j'ai pu m'échapper. Puis je suis sortie du pays et j'ai rejoint l'Angleterre.
Quels espoirs, quels rêves vous avez pour vous et pour la Corée du Nord?
Avant d'écrire ce livre, je rêvais d'une réunification de la Corée, une réunification politique. Je me disais, comment va-t-on réussir à abolir le 38e parallèle, cette frontière invisible qui sépare le Nord du Sud? Je ne voyais les choses qu'en ces termes-là, politique. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'était pas question d'abolir le 38e parallèle. J'ai réalisé que le plus important, c'était de démolir le mur intérieur que chacun de nous avons intégré, les Sud-Coréens de leur côté et nous, les Nord-Coréens. Grâce à la rencontre que j'ai faite avec Céline, j'ai pu le faire à mon niveau, me réconcilier avec les Sud-Coréens et trouver une certaine paix intérieure. C'est un premier pas pour construire la Corée future.
Et si nous, ce premier pas, avec des backgrounds aussi différents, si nous avons réussi à le faire, est-ce que c'est pas un petit message d'espoir quelque part?
Deux Coréennes, Ji-Yoon Park et Céline, c'est publié chez Bûcher Chastel. Elles s'exprimaient au micro de Charlie Dupiau. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac et Steven Elsley. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, dernière ville de notre série d'été. Ok. Demain, vivre dans une ville coffre-fort, Genève, en Suisse. À demain, les voisins et les voisines.